Bonjour, c'est la chronique européenne de Geneviève Saint-Hubert pour le Centre d'information Europe Direct de Toulouse-Occitanie. Nous sommes aujourd'hui au lycée Pierre-Paul Riquet, autrement dit le lycée de l'espace, et nous sommes avec Lucas Bution qui vient d'intervenir devant une classe pour leur expliquer ce qu'il fait à Bruxelles. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous expliquer votre fonction à Bruxelles et nous parler de votre travail ?
Donc moi je dirige le bureau d'Eurospace à Bruxelles, donc Eurospace qui est l'association professionnelle de l'industrie spatiale européenne, donc en gros l'association qui regroupe tous les gros acteurs qui fabriquent des satellites, des lanceurs à l'échelle européenne, et donc on représente les intérêts de l'industrie spatiale auprès des institutions européennes pour faire en sorte que leur voix soit bien entendue dans le cadre de l'élaboration des différentes législations et de la politique spatiale de l'Union européenne.
Alors donc là on a introduit la notion de lobbying, je pense. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est véritablement votre travail par rapport aux institutions dans ce cadre de lobbying dont on entend beaucoup parler? Qu'est-ce que ça veut dire donc au niveau du spatial?
Très concrètement, ça veut dire que nous, on va suivre tous les développements législatifs qui peuvent impacter directement ou indirectement l'activité de nos industriels, donc en termes de développement de programmes, en termes de budget alloué à la politique spatiale de l'Union européenne, et donc au niveau de la Commission européenne, du Conseil, donc des États membres et du Parlement européen, on va, selon l'actualité, suivre toutes les législations qui pourraient s'appliquer, essayer d'aller porter les messages consensuels de nos industriels auprès des différents acteurs institutionnels à Bruxelles, pour que voilà, ces développements de législatifs et ces développements de la politique spatiale de l'UE soient en ligne, entre guillemets, avec les grandes aspirations ou les grandes priorités de l'industrie.
Donc, cette activité de lobbying, on le dit souvent, vise à influencer, à conseiller.
C'est un mélange de tout ça, c'est influencer, faire de la pédagogie. Le spatial est un secteur relativement spécifique puisque l'industrie, plutôt que de s'opposer avec la Commission européenne ou les institutions sur la mise en œuvre de régulations, là on est plutôt sur un travail main dans la main puisque la Commission est aussi finalement cliente de l'industrie. Donc il est extrêmement important que la Commission ait en tête quelles sont les priorités de l'industrie. Donc il y a un vrai travail de main dans la main. Et puis c'est vrai que beaucoup d'élus, de fonctionnaires ne savent pas forcément ce qu'est le secteur spatial, quelle est la plus-value que les technologies spatiales peuvent apporter dans le quotidien des citoyens européens et au bénéfice de tout un tas de politiques publiques. Et donc on est aussi là pour faire en sorte que ben voilà, cette plus-value de la politique spatiale européenne soit pleinement exploitée dans le budget européen et dans les différents pans de la politique communautaire.
Alors avant de revenir au budget européen, justement on vous a posé la question tout à l'heure, mais je crois qu'il est intéressant pour nos auditeurs que vous nous reparliez de cela, de cette fameuse transparence des lobbies à Bruxelles par rapport par exemple à ce qu'on peut voir dans nos pays et peut-être en France.
Alors c'est vrai qu'on peut toujours évidemment améliorer les choses, mais à Bruxelles, cette notion de lobbying, en tout cas de représentation d'intérêts, est tellement entrée dans les mœurs depuis longtemps qu'il y a des processus très clairs, très transparents qui sont mis en place pour se déclarer, savoir qui on rencontre, à quel moment, quels intérêts on représente, quels liens financiers. Par exemple, si on a des projets européens en entretien avec les institutions de l'UE, de telle sorte qu'on saura dire qui a dit quoi à quel moment, et limiter du coup cette fameuse problématique des conflits d'intérêts qu'on peut beaucoup retrouver aussi à l'échelle nationale, mais qui est très souvent aussi vilipendée à Bruxelles.
Alors revenons au budget. Quel est le budget global, si vous avez une échelle à nous donner, de la politique spatiale et des programmes spatiaux ?
Alors la politique spatiale de l'UE dans le cadre budgétaire actuel, donc 2014-2020, c'est 12 milliards d'euros sur 7 ans. Et donc on se rend compte que si on compare ce budget au budget institutionnel des autres puissances spatiales, on est dans une proportion beaucoup plus faible, mais malgré tout avec des résultats extrêmement intéressants, avec des programmes phares qui fonctionnent très bien, Galileo, le GPS européen, Copernicus, programme d'observation de la Terre qui produit des volumes gigantesques de données qui peuvent être exploitées pour tout un tas d'applications par des entrepreneurs, etc. On se rend compte que l'Europe spatiale fait beaucoup finalement avec peu, et ça peut être par cet égard un motif de fierté finalement, parce qu'il y a peu de domaines politiques où finalement l'Europe a su construire des secteurs mondialement compétitifs et surtout des secteurs stratégiques qui restent des secteurs de pointe.
Alors avant de venir à votre parcours, est-ce que quelle est votre vision de la politique et des programmes spatiaux, notamment avec la sortie de la Grande-Bretagne? Est-ce que il va y avoir très brièvement, parce que j'imagine que tout ça est encore très flou, quel va être le problème, le financement, le bénéficier pour les Britanniques de ce dans quoi ils ont investi pendant des années?
Alors, les Britanniques, évidemment, sont des acteurs importants du paysage spatial européen, et donc la sortie de l'Union européenne pourrait avoir des conséquences en termes budgétaires. Alors évidemment, les négociations de sortie et la renégociation de la relation future sont très très loin d'être achevées. Donc je pense que pour l'instant, il faut surtout rester prudent. L'Union européenne aura ses intérêts très clairs à défendre. Et donc c'est encore probablement un peu tôt pour préjuger de la situation future.
Revenons à votre parcours, puisque c'était aussi l'objectif de cet après-midi au lycée Pierre-Paul Riquet, dit lycée de l'espace à Saint-Aurens. Votre parcours, vous êtes maintenant directeur de cet organisme à Bruxelles. Vous pouvez nous en reparler un petit peu?
Alors moi, très clairement, donc je suis toulousain, donc je suis un peu aussi tombé dans le spatial quand j'étais petit, mais j'ai pas du tout étudié les mathématiques ou la physique. J'ai fait Sciences Po en affaires européennes, et c'est vrai que voulant travailler au contact des institutions, je me suis retrouvé à travailler pour le secteur spatial à Bruxelles depuis maintenant quelques années, mais rien ne me prédestinait forcément à occuper ces fonctions. Mais c'est vrai que le fait d'être toulousain et de travailler pour secteur donne aussi un lien finalement du local à l'européen et donne aussi une certaine cohérence à ce parcours.
Et vous avez évoqué tout à l'heure très brièvement le fait que pour les femmes, il y avait encore beaucoup de marge dans le secteur industriel et le secteur spatial. Donc est-ce que vous pensez que dans les années à venir, avec, vous évoquiez le baby boom il y a peu, c'est quelque chose qui peut évoluer?
On a vu aujourd'hui dans la classe dans laquelle on intervenait qu'il y avait un certain équilibre entre les jeunes filles et les garçons. Donc ça montre qu'il y a une vraie appétence pour le secteur spatial chez les filles dans les jeunes générations. Donc il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas positivement. Mais après, c'est évidemment un problème beaucoup plus global d'évolution des mentalités. Et malheureusement, ce n'est pas propre au spatial que dans l'industrie de façon plus générale, il y a un certain déséquilibre entre hommes et femmes dans un certain nombre de fonctions.
Merci beaucoup, Lucas. Merci d'avoir accepté de venir nous parler donc de ce que vous faites à Bruxelles, du spatial, de l'Europe et de l'emploi et de votre parcours. Nous nous retrouvons très bientôt et je vous dis à bientôt. Tschüss, bye bye, arrivederci, adi schatz.